Alors, depuis les derniers mois, avec le projet de charte des valeurs québécoises qui est déposé par le Parti québécois, il y a plusieurs prises de position de part et d'autre dans la société, d'organisations, et aussi des manifestations qui ont été faites pour ou contre la charte. Et donc, qu'est-ce que le Parti communiste révolutionnaire en pense? Il y a eu une conférence le 18 octobre dernier, et on va avoir un petit résumé de cette conférence-là à travers certaines questions.
Oui, ben, en effet, le 18 octobre dernier, on a fait une conférence à la Maison Normand Béthune sur le projet de charte des valeurs québécoises, le supposé projet de charte des valeurs québécoises que le PQ a présenté. En gros, le PCR rejette complètement cette charte-là. Au moment où on a tenu notre conférence, on était, dans le fond, à quelques jours, deux jours avant la manifestation qui a été organisée par un réseau autour de l'organisation Personne n'est illégale contre cette charte-là qu'on qualifie de xénophobe. Et on était une semaine avant la fameuse marche des Jeannettes là, qui a été organisée également par le PQ et l'Empire québécois une semaine plus tard. C'est drôle parce que la charte a été déposée à la mi-août à peu près, fin août, du moins les premières rumeurs avant qu'on ait le projet comme tel qui a été rendu public. Puis on aurait pu penser que, évidemment, c'était un coup électoraliste du PQ, là, c'était d'utiliser une question très sensible pour mousser le nationalisme identitaire et essayer de remobiliser une base de soutien autour d'eux. Mais on aurait pu penser que le débat qui est parti vraiment sur une lancée allait quand même retomber. Mais le fait est que ça s'est poursuivi pendant des semaines et des semaines. Et là, deux mois et demi après, on est encore en plein cœur de ce débat-là. On dirait que c'est rendu la seule question politique là, digne de mention au Québec. Là, peut-être que la décision du PQ, finalement, ou du moins l'annonce du PQ, qui déclencheront pas d'élection avant les fêtes, va calmer les choses. Mais en même temps, les élections pourraient être tout de suite après les fêtes ou au printemps prochain, et ils vont continuer à se servir de cet aspect-là. C'est un climat qui est très dangereux actuellement parce que on utilise vraiment, d'abord c'est une charte, on va dire, on nous dit que c'est une charte qui vise à promouvoir la laïcité, ce qui n'est pas le cas. On nous dit que ça vise à promouvoir les valeurs québécoises, ça vise à promouvoir certaines valeurs, mais pas les valeurs de toutes les classes ou de tout le monde au Québec, des valeurs d'exclusion. On nous dit que c'est pour préserver la neutralité de l'État, assurer l'égalité homme-femme, mais en réalité, de plus en plus, avec de semaine en semaine, de jour en jour, on voit qu'en réalité, c'est une charte islamophobe. On a raison de la caractériser comme étant xénophobe, on a raison de la caractériser comme étant raciste, parce qu'elle encourage les gestes, les comportements, les attitudes, les idéologies racistes et xénophobes, mais c'est clairement la communauté musulmane qui est ciblée. Quand on parle des signes ostentatoires, il n'y a plus personne pratiquement qui parle de la kippa juive ou du turban sikh. C'est le voile, le foulard, en fait, porté par certaines musulmanes qui est visé essentiellement. Et c'est un contexte qui est très dangereux parce que c'est le même discours qu'utilisent les bourgeoisies dans tous les pays capitalistes avancés actuellement, dans le contexte de la crise au niveau international, pour détourner l'attention des enjeux autour des questions liées à la crise et mobiliser ou remobiliser des fractions du peuple et de la classe ouvrière contre des boucs émissaires, contre des cibles. Et on le voit avec le Front national en France qui est rendu à 30% dans les sondages, avec un discours qui, par ailleurs, est très, très, très similaire à celui du PQ. Défense des valeurs traditionnelles, défense de la laïcité, défense des soi-disant idéaux là, de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité, séparation de l'Église et de l'État. Et tout ça cible les communautés musulmanes et cible de manière plus générale ceux qu'on qualifie ou celles qu'on qualifie d'étrangers. En France, c'est les Roms qui sont expulsés. En Grèce, on voit ce phénomène-là aussi avec l'aube dorée et on dira, c'est certain que les dirigeants du PQ ou les partisans du PQ vont s'en défendre, mais le fait est, selon nous, que objectivement, c'est le même discours et c'est la même utilisation de ces questions-là de nationalisme identitaire, d'insécurité, qui sont utilisées pour à peu près des mêmes fins. Des fins électoralistes, des fins de tenter de reconstituer une base sociale autour du PQ, parce que le PQ est quand même un parti qui historiquement a porté le projet de construction d'un État bourgeois autonome au Québec ou indépendant, un projet qui est dans une impasse depuis, surtout depuis le deuxième référendum en 95. Pour que ce parti-là ait encore une raison d'exister, il faut aussi qu'il trouve une manière de relancer une forme d'autonomisme ou d'indépendance, lutte pour l'indépendance. Il faut qu'il remobilise une base autour de ça. Fait qu'ils brassent les cartes, là. Les gens qui appuient le PQ actuellement autour de la question de la charte sont pas nécessairement exactement les mêmes secteurs de la population qui appuyaient le projet d'indépendance, mais ils rebrassent les affaires pour essayer de reconstituer une base. Et c'est un contexte, donc, très particulier au PQ, mais aussi très général dans les pays impérialistes, dans le contexte de crise, comme je l'ai mentionné, où les bourgeoisies ont de plus en plus de misère à mobiliser les gens derrière eux, de susciter une espèce de consentement. On le voit par ça c'est une tendance lourde des 30 dernières années, là, mais de baisse de taux de participation aux élections. Les gens croient moins, sont moins enthousiasmés. Ça veut pas dire que les gens sont prêts à se révolter et à faire la révolution, mais sont moins enthousiasmés par les projets que la bourgeoisie propose, par son mode de gouvernance. On donnait comme exemple à la conférence l'autre jour un projet comme le Plan Nord de Jean Charest. Dans les années 60, un projet comme ça aurait été présenté un peu comme la Bay James. Ça aurait été un projet rassembleur. Le monde aurait embarqué là-dedans avec l'espoir que finalement les choses peuvent aller pour le mieux, on peut avoir plus de prospérité, plus de jobs, des meilleurs salaires, améliorer nos conditions. Mais on dirait que c'est pas juste au Québec. Les bourgeoisies n'y arrivent plus à trouver de projets comme ça qui suscite l'adhésion, le consentement, l'adhésion du monde. Et là, ben, c'est dans ce contexte-là que des projets très ciblés, là, il y en a qui appellent ça les wedge politics, là, comme ce que Harper fait dans le reste du Canada, c'est dans ce contexte-là que la charte est arrivée.
Et puis, un peu précédemment, en 2007, il y avait eu la commission Bouchard-Taylor qui avait été mise sur pied suite à toute la campagne populiste xénophobe faite par des Marie Dumont à l'époque, aux élections de mars 2007, qui avait connu un bon succès. Et la commission s'était tenue et avait adopté certaines positions par rapport aux positions reprises aujourd'hui, entre autres par Québec solidaire et le projet de charte de la laïcité. Donc, quelle était la position du PCR à l'époque et aujourd'hui, plus précisément sur la notion d'accommodement raisonnable?
Ben, en fait, c'est bon de rappeler ce qui s'est passé en 2006, 2007, 2008, avant la commission Bouchard-Taylor, pendant et après la commission Bouchard-Taylor. Parce que, en fait, ce qu'on voit, présentement, ce que le PQ fait, il n'a rien inventé, là. C'est-à-dire que c'est exactement la stratégie que l'ADQ avait utilisée avec succès, là. C'est-à-dire de monter en épingle quelques cas, dont d'ailleurs la commission Bouchard-Taylor les avait tous analysés, les cas qui étaient sortis dans les médias dans les deux années précédant les audiences publiques. Il y en avait recensé 21 cas qui avaient été ramenés d'accommodements supposément déraisonnables. Puis là-dessus, en fait, il y a 15 cas que c'était carrément des faussetés ou des affaires exagérées ou qui n'avaient rien à voir avec cette notion-là d'accommodement. Toujours est-il que c'était l'Empire québécois à l'époque, hein, c'était principalement dans les médias de québécois qu'on avait entretenu pendant des mois un climat laissant entendre que le Québec était assiégé par des hordes de musulmans qui venaient changer tous les rapports sociaux puis toutes les soi-disant valeurs au Québec. Et finalement, ça avait débouché sur cette commission-là, où, comme Denis Laferrière l'avait bien mentionné, on s'est retrouvé dans une situation où, à chaque jour que la commission tenait ses audiences publiques, on voyait des pauvres qui venaient cracher sur d'autres pauvres, des travailleurs, des travailleuses, des prolétaires francophones de souche, là, d'origine québécoise dite de souche, qui allaient au micro un après l'autre pour dire à quel point ils voulaient rien savoir des étrangers, de l'immigration, tout ça, qui attaquaient d'autres prolétaires, d'autres travailleurs, travailleuses. La Ferrière avait un bon mot, il disait... pendant ce temps-là, les riches, eux autres, qu'ils soient immigrants ou québécois de souche, ils se pointent pas à la commission Bouchard-Taylor. Ils vont pas prendre la parole dans ces affaires-là. Ils laissent les pauvres se battre entre eux. Ils ont plus important à faire que d'aller là. Ils sont trop occupés à faire du fric. C'était tellement le contexte, la situation. Sur la question des accommodements, précisément, nous, on rejette pas la notion d'accommodement. Si on la critique, c'est qu'on trouve qu'elle va pas assez loin, en fait. La notion d'accommodement raisonnable, essentiellement, c'est une notion qui a été développée dans le cadre du légalisme bourgeois, là, du corpus là, du droit bourgeois, qui est, dans le fond, une application des conceptions de des droits et libertés qui ont été développées au cours du 20e siècle. Et c'est de plus en plus remis en question, comme tous les droits que la bourgeoisie a été... le corpus de droits et libertés qui s'est développé avec des traités internationaux, tout ça, l'ONU, la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, c'était dans un contexte d'ascension du capitalisme et de lutte contre la menace socialiste et communiste, là, les deux camps qui s'affrontaient. Mais dans le contexte d'aujourd'hui où le capitalisme est mondial, il n'y a plus d'opposition le capitalisme, il approfondit plus là, la démocratie. Bon, donc cette notion-là d'accommodement, en fait, est venue dans un contexte très particulier, c'est en droit du travail. C'était finalement, et c'était beaucoup sur des questions d'accès au travail pour des personnes qui souffrent d'un handicap. Et on disait dans le fond que tout le monde, ce qu'on nous dit au Canada dans les chartes, c'est que tout le monde a droit à l'égalité. Puis donc, il n'est pas permis à un employeur de dire « moi, j'embauche pas des personnes handicapées » ou « moi, je vais embaucher des hommes puis des femmes, mais les femmes, parce que c'est des femmes, vont être payées 3$ de moins ». Ça, légalement, c'est pas permis au Canada ni au Québec, que ce soit en vertu de la Charte canadienne ou de la Charte québécoise. Par contre, souvent, des politiques qui sont neutres ont un effet discriminatoire sur des groupes de personnes. On va payer tout le monde le même salaire, on fera pas de discrimination à l'embauche pour les personnes handicapées, mais si l'édifice n'est pas adapté puis accessible, la personne ne peut pas aller travailler, elle est victime de discrimination. C'est dans ce cadre-là que la notion d'accommodement raisonnable est arrivée. Puis le mot raisonnable est important parce que pour la bourgeoisie, dès que ça touche ses profits, ça devient déraisonnable si ça affecte trop ses profits. Et on a dit, par exemple, une petite entreprise qui embauche 4-5 personnes puis que dont les bureaux sont dans un immeuble au troisième étage, puis que c'est pas accessible aux personnes handicapées, ben une personne handicapée pourrait dire « moi, je veux un accommodement pour pouvoir être embauché et aller travailler ». Puis l'employeur pourrait dire « j'aimerais bien ça, mais faire installer un ascenseur ou aménager l'édifice, ça me coûterait 250 000 $ puis j'ai pas de budget pour ça, c'est déraisonnable ». Donc, on a le droit de porter atteinte au droit à l'égalité. Et l'obligation d'accommodement, là, elle existe tant que ça pose pas une contrainte excessive à l'organisme, et souvent c'est des employeurs, c'est des boss, tant que ça leur amène pas une contrainte excessive sur leur fonctionnement. Contrainte étant égal profit la plupart du temps. Au niveau de la liberté de religion, c'est la même chose. C'est qu'à un moment donné, une personne peut dire, ben moi, un horaire de travail qu'on me propose, faut que je travaille le dimanche, puis je suis catholique, je vais à messe, donc ça porte atteinte à mon droit à l'égalité, parce que si je veux pratiquer ma religion, je peux pas travailler le dimanche, j'aurai pas droit à cet emploi-là. Est-ce qu'un employeur peut accommoder la personne sans que ça y pose une contrainte excessive? Donc, c'est une notion qui a un sens dans le contexte du droit bourgeois, et qui est peut-être ce que le droit bourgeois a réussi à produire de mieux en termes d'application ou de laisser un petit peu les droits s'appliquer, mais c'est très très limité. Nous, on regarde pas les choses de cet angle-là. On est pour toute forme d'accommodement, en fait, qui permette d'unifier la classe ouvrière et de la placer dans une meilleure position pour combattre les oppressions, pour combattre l'exploitation. Puis on est contre toute forme d'accommodement avec la bourgeoisie et avec nos ennemis de classe. Quand on parle d'accommodement, c'est comme ça qu'on le voit. Mais dans le contexte du droit bourgeois, ben c'est vaut mieux. C'est comme le droit de manifester. On n'est pas des partisans, nous autres, des chartes et tout ça, mais en même temps, si la bourgeoisie veut nous arrêter parce qu'elle veut pas nous reconnaître le droit de manifester, on va se battre sur tous les terrains juridiques, politiques et dans la rue pour imposer notre droit de manifester. Ce qui fait pas de nous des partisans en soi des chartes. C'est un peu la même chose sur la notion d'accommodement. Mais en soi, c'est pas fou comme idée là, que on va accommoder les gens pour leur permettre, mettons, un accès à l'égalité, pas pour leur donner des privilèges. Puis quand on réussit à accommoder un groupe, ça enlève rien aux autres. On prend juste un petit exemple, puis on n'est même pas dans un... Là, on est dans un cas de rapport privé, parce que les infrastructures qu'il y a à la ronde ont été construites par des fonds publics. Ça appartenait à la Ville de Montréal, et ça a été cédé à une entreprise privée, une multinationale, qui a augmenté les tarifs, puis qui fait plein d'argent, puis qui ont décidé que les gens pouvaient pas amener de nourriture sur le site, qu'il fallait consommer absolument la merde qu'ils vendent dans les restaurants là-bas. Donc, personne n'avait le droit d'amener son lunch. Finalement, au début de l'été, ils ont permis à des musulmans et à des juifs d'apporter de la nourriture cachère ou halal, puis de la rentrer sur le site. Qu'est-ce que ça enlève aux non-juifs et non-musulmans qui, de toute façon, n'avaient pas le droit d'apporter leur nourriture? Ça leur enlève rien. Par contre, on aurait peut-être pu dire, ben, au moins, il y a une brèche qui a été faite dans une politique qui est mauvaise pour tout le monde. Puis là, on va utiliser cette brèche-là pour aller plus loin, pour l'élargir. Allons-y, invoquons des allergies alimentaires, invoquons n'importe quoi pour avoir le droit d'amener son lunch. Puis à un moment donné, tout le monde va finir par avoir le droit d'amener son lunch à la ronde. T'sais. Mais là, à cause de ce discours complètement irrationnel, il y a une partie de la population qui s'est soulevée contre ces accommodements-là. Puis au final, belle victoire, on a gagné, la ronde a reculé, il n'y a plus personne qui a le droit d'amener son lunch à la ronde. Fait qu'on n'est pas plus avancé. Il y a vraiment quelque chose de vicié dans cette idée-là que quand la bourgeoisie est forcée de concéder quelque chose, Mais vu que c'est pas tout le monde qui l'a, on va s'opposer, puis finalement on va laisser la bourgeoisie continuer à déterminer toutes les règles. C'est très problématique, là.
Oui, à tous ceux qui nous accusent d'être pour les intégristes religieux ou d'être pas des véritables défenseurs d'égalité des sexes ou d'être anti-féministes parce qu'on est contre la Charte des valeurs. La question s'inscrit plus dans comment unir la classe ouvrière, ses différentes composantes, peu importe leur croyance, leur origine, tout en luttant contre les conceptions fondamentalistes religieuses, quelque religion que ce soit.
Ben, la charte PQ, il faut dire que c'est une charte xénophobe, islamophobe, raciste, c'est une charte hypocrite aussi. Le discours qui dit que c'est fait au nom de l'égalité homme-femme, là, c'est faux. Qu'est-ce que ça amène de plus, le fait qu'on interdise des signes ostentatoires dans la fonction publique aux salariés? Qu'est-ce que ça amène de plus en termes d'égalité homme-femme? Absolument rien, sinon qu'il y a un effet prévisible sur certaines femmes, qui peuvent être quelques centaines ou quelques milliers, pas plus, mais qui vont devoir être confrontées à un choix déchirant. Est-ce que pour ces femmes-là, pour qui le port d'un symbole religieux fait partie de leur valeur, appelons ça comme ça, ou de leur identité, ou que ce soit imposé ou choisi, il y a des femmes qui prétendent qu'elles le portent par choix, on peut sans doute penser qu'il y a des femmes qui le portent par obligation aussi, mais peu importe que ce soit par choix ou par obligation, ils vont être contraintes de choisir entre le droit au travail, puis continuer de porter ce symbole-là. Puis pour celles pour qui c'est imposé, ça va vouloir dire choisir de continuer à le porter, au risque à ce moment-là de se mettre au banc de leur famille, tout ça, puis etc. Donc c'est un effet discriminatoire, ça amène pas plus d'égalité entre les hommes et les femmes. On pourrait discuter longtemps de ce que c'est comme symbole. Est-ce que c'est fondamentalement un symbole d'oppression des femmes, le port du foulard? Est-ce que les religions sont en soi porteuses d'oppression? À mon sens, oui. Mais toute la question de savoir comment on lutte contre les religions, l'influence des religions, et surtout l'idéologie qui est derrière ça, c'est une chose de dire que, et comme Marx l'a dit, que la religion, c'est l'opium du peuple. C'en est une autre que de déterminer comment on va combattre cette consommation d'opium-là qui empêche les gens d'accéder à une conscience, une connaissance scientifique, une conscience plus juste des enjeux, puis qui pourrait les amener à agir de manière conséquente. Parce que ces idéologies-là reposent sur des bases matérielles. Il faut s'attaquer aux bases matérielles pour pouvoir renverser ces idéologies-là. Ensuite, au niveau strictement de la lutte idéologique, ben là, c'est toute la question de comment on gère ce qu'on appelle, nous, les maoïstes, les contradictions au sein du peuple. S'il y a des travailleuses, à un moment donné, dans un milieu de travail, que ce soit un CPE ou ailleurs, qui pensent qu'elles doivent porter le port du voile parce qu'elles doivent se soumettre à leur mari qui leur demande de le porter, tout ça, est-ce que c'est en les excluant qu'on va les faire avancer ou c'est en luttant avec elles? Lutter avec elles, ça veut dire ben faire la bataille, mener la lutte de classe. Lutter, par exemple, comme les travailleuses de CPE l'ont fait ensemble pendant des mois et des années pour la reconnaissance de leur job, puis pour avoir des augmentations de salaire, puis organiser des manifs, mener des luttes ensemble, qui étaient ensemble dans la rue, sur des lignes de piquetage, des travailleuses, des éducatrices qui portent le foulard, puis d'autres qui portent pas le foulard. Mais ça crée des conditions de solidarité, des conditions d'unité qui font qu'à un moment donné, c'est possible d'engager le débat. Mais engager le débat en stigmatisant les personnes, ça n'a jamais été en passant ni la position de Marx, ni celle des marxistes à la suite, qui ont toujours attaqué les religions, mais pas les personnes religieuses, quand ces personnes-là font partie de notre classe. Ça ne veut pas dire qu'on accepte tout et qu'on laisse tout. De la même manière qu'à un moment donné, il y a un travailleur de notre classe qui exprime des propos racistes, on le contredit, puis on s'oppose à ce qu'il dit. Mais il y a une question de veux pas d'éducation, et ça c'est sur le long terme, c'est à travers la lutte idéologique, la lutte politique, les batailles communes, la participation ensemble à la lutte des classes aussi, puis aux luttes immédiates et aux luttes révolutionnaires. Puis éventuellement, avec la révolution aussi, c'est d'attaquer les bases matérielles qui vont faire que ces religions-là leur raison d'être va disparaître. Elles vont avoir de moins en moins de prégnance sur le monde qui les partage.
Donc, pour la classe ouvrière, on doit rejeter ce projet de charte des valeurs-là. Et qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois là-dessus?
Ben en fait, il y a des mobilisations contre la charte. Il y a différentes communautés, entre autres chez les musulmans, qui se sont mobilisés avec. Ils ont eu 100% raison. Là. Nous, on a participé d'ailleurs à certaines des manifestations qui ont été organisées, on va le faire encore. L'appui à la charte est relativement fort, mais il n'est pas aussi fort que le PQ l'aurait espéré. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont pas en élection. Leur opération est un certain succès, mais relatif. Il peut se passer bien des choses. Ils ont ouvert une boîte de Pandore, là, puis là, ils ont déchaîné des forces que le PQ contrôle plus. Hein. Il y a vraiment beaucoup de cas, et ça, j'ai eu l'occasion d'en parler à des militantes de centres de femmes de partout au Québec. Dans les centres de femmes, il y a beaucoup de femmes musulmanes qui se présentent et qui rapportent des cas d'agression, verbale ou physique. On en a entendu parler un tout petit peu dans les médias, mais c'est pas quelques cas là isolés. C'est un phénomène qui existe et qui des fois c'est aussi des agressions psychologiques là, le regard, la façon de voir les gens. Ça c'est dangereux en ce moment, ce phénomène-là. Il faut lutter contre ça. Et sur la charte elle-même, faut poursuivre la mobilisation. Hein. Et on se rend compte en faisant ça que c'est un phénomène intéressant d'ailleurs, c'est que les alignements de force sont pas nécessairement ceux auxquels on est généralement habitué. Dans la gauche, là, il y a énormément de divisions et c'est pas une mauvaise chose dans le fond. Il y a une gauche dans la gauche, il y a une gauche qui est très pro-charte. Sans nécessairement être péquiste. Il y en a même dans Québec solidaire. Il y a un collectif pro-charte dans Québec solidaire. Il y en a chez les anarchistes. Il y en a chez les intellectuels de gauche, soi-disant éclairés, comme Normand Baillargeon à l'UQAM. C'était vraiment une gauche, je dirais, c'est plus dans la petite bourgeoisie, des profs, tout ça, qui sont... dans le fond, des gens de gauche là, qui n'aiment pas le capitalisme parce que c'est un système où il y a des différentes oppressions, il y a de l'exploitation, mais qui, au fond, trouvent quand même que c'est un système qui a amené bien du progrès puis qui ont un relatif confort dans ce système-là et qui sont vraiment attachés aux idéaux que le capitalisme naissant il y a deux siècles a porté, de liberté, égalité, fraternité, puis qui pensent que c'est bon, hein, le capitalisme nous a amené la séparation de l'Église et de l'État, puis qu'il faut préserver ça. Comme si le capitalisme aujourd'hui était encore un facteur de progrès qui amenait la société vers l'avant, qui amenait la société vers plus de science, plus de moins d'irrationalité. Et ça, donc, il y a un secteur de la gauche avec qui on a souvent l'occasion de... Ben, pas si souvent, mais parfois l'occasion de se battre dans la rue, qui sont pas de notre bord pantoute. Il y a une autre gauche qui est contre la charte, mais beaucoup sur encore là, il y a un attachement au capitalisme, mais pas dans le même sens. Je dirais c'est un peu peut-être la direction de Québec solidaire en ce moment, qui s'oppose à la charte. Eux, leur adhésion, c'est vraiment le corpus des droits et libertés du 20e siècle. Ils ont une certaine nostalgie, un peu de la même façon qu'ils défendent l'État-providence. Ils voudraient que le capitalisme revienne à l'État-providence, mais ils voudraient que le capitalisme revienne à la glorieuse époque, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits et libertés, puis tout ça. Alors, eux, ils s'opposent à la charte pour des raisons qu'on partage en bonne partie, et c'est positif, c'est correct, mais en même temps, ça a une limite. La limite étant qu'ils restent sur le terrain vraiment du droit bourgeois. Ils posent pas la question en termes de classe. Et le fait qu'ils posent pas la question en termes de classe, quels sont nos intérêts comme travailleurs, travailleuses là-dedans, ils s'adressent pas non plus aux gens en termes d'intérêt de classe. T'sais. Je trouve que si les gens pouvaient entendre, je dirais aux gens d'aller voir sur YouTube, taper Denis Laferrière, Charte ou... puis au Bazo, puis ils vont ou à Commandement, puis pour trouver l'extrait de son entrevue en 2007. En 3 minutes, ce que Denis Laferrière disait, il y avait le potentiel de convaincre beaucoup de travailleurs, travailleuses qui n'aiment pas les immigrants, qui sont pour la charte, parce qu'il revenait à une question simple, c'est qui nos ennemis, c'est qui nos amis? C'est pourquoi on aurait plus de fun avec Paul Desmarais, un Pierre-Carl Péladeau, un Laurent Beaudoin ou d'autres comme ça, puis que les gens de notre classe qui travaillent dans la même usine, mais qu'ils sont religieux, ça serait des gens qui nous nuisent, qui sont nos ennemis. C'est des questions simples, mais il faut en revenir là. Et la gauche démocratique, que j'appellerais la gauche démocratique, là, qu'on rejoint sur certains aspects, mais sa limite, c'est que elle s'adresse pas à ce monde-là. Elle s'adresse pas à la... à ce monsieur-là ou à cette madame-là qui travaille dans une shop à 10-12 piastres de l'heure et qui pense que le problème, c'est les immigrants. Elle s'adresse aux gens qui ont déjà une connaissance du système bourgeois puis des droits et libertés. Et le troisième courant, ben, c'est celui dont on fait partie. Mais je pense que ça rejoint aussi un peu Personne n'est illégal, le groupe autour de qui dénonce la charte xénophobe, qui introduit au moins dans son analyse, il amène des questions de classe, puis il analyse cette question-là de la charte à partir d'un mode d'analyse qui essaie de cibler les oppressions, les formes d'oppression et les formes d'exploitation. Il dit, voici, on vit dans un système où il y a un État, qui est un État, les anarchistes vont dire, un État autoritaire en soi, ils parleront pas en termes de classe, mais un État autoritaire qui opprime et qui exploite dans la société. Et on peut pas regarder ça, la question de la charte, se positionner là-dessus, indépendamment justement de l'analyse des rapports d'exploitation, des rapports d'oppression. Et dans le meilleur des cas, un peu comme Solidarité sans frontières le fait dans ses interventions publiques récemment, il ramène aussi la question de classe à travers ça, comme étant une forme d'exploitation. Et ils reviennent aussi sur le rôle de l'État. Ils disent comment on peut penser que par une charte comme ça, l'État pourrait être neutre et respecter le droit à l'égalité de tout le monde, alors qu'au fond, c'est l'instrument de domination d'une classe sur une autre. Il n'est jamais neutre, cet État-là. Il impose toujours différentes formes d'oppression et d'exploitation sur des secteurs, des classes opprimées. Et ça rejoint un peu ce qu'on dit, et c'est comme dans la gauche, il y a la gauche pro-charte, la gauche démocratique anti-charte, et la gauche, je dirais, plus anti-exploitation, anti-oppression, qui s'oppose à la charte aussi, qui a des convergences avec la gauche démocratique, mais je pense qu'elle a le plus de potentiel, cette gauche-là, pour aller vraiment voir les gens, puis marquer des points, parce que c'est un enjeu. C'est pas nouveau dans l'histoire, on a parlé de Bouchard-Taylor. Moi, dans mon expérience militante personnelle, là, la conjoncture actuelle au Québec me rappelle aussi beaucoup 1990, pendant le soulèvement Mohawk à Kanizatake, où dans la classe ouvrière, il y avait une division, et à un moment donné, c'était 90% des Québécois et des Québécoises qui souhaitaient une intervention de l'armée pour écraser les Autochtones. Et la bourgeoisie avait réussi à créer une situation où elle avait fait faire un shift dans l'opinion publique qui fait que les gens comprenaient plus, dans le fond, vous savez que le premier qui avait appelé à l'intervention de l'armée canadienne au Québec, c'était Bourassa qui était au pouvoir, mais c'est pas lui qui avait appelé l'armée. C'est Jacques Parizeau, qui était chef de l'opposition, d'un parti nationaliste, indépendantiste, lui-même incarnant l'aile dure de l'indépendantisme, qui dénonce le fait que le Québec a été sous occupation pendant la crise d'octobre en 1970, et qui, à ce moment-là, en 1990, c'était la première fois que l'armée canadienne débarquait et occupait une partie du territoire québécois, territoire autochtone, mais à Kanisatake. Et c'est le PQ qui a appelé et qui dénonçait le gouvernement Bourassa qui était trop mou parce qu'il voulait pas faire venir l'armée canadienne. Ça devient, je veux dire, c'est incompréhensible, disons, en soi. Parce que c'est un retournement complet où les gens perdent de vue des choses, des notions élémentaires. Et parce qu'ils perdent de vue c'est qui, c'est quoi les vrais alignements, les vrais rapports de force, les vrais rapports de classe. Et là, tout à coup, c'était les Autochtones qui étaient nos ennemis. Puis là, c'est rendu depuis le 11 septembre 2001, ben, c'est les intégristes musulmans. Puis par extension, c'est tous les musulmans. Puis par extension, c'est les Arabes. Puis par extension, si on écoute Céline Dion qui s'est prononcée pour la charte, qui a aucune idée de ce que c'est, elle dit, là, ici, ils viennent, elle dit, les Anglicans, ils viennent ici avec leur voile dans les hôpitaux. Là, dans sa tête, elle devait voile musulmane, musulmane afghane, afghane anglicane, à mélanger les mots. Là, c'est les Anglicans. Tu sais, ça devient du gros n'importe quoi. Mais c'est dangereux pour notre classe.
Donc, merci beaucoup. Donc, ni Québec, ni Canada, l'internationalisme prolétarien vaincra.